Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Section 0 de l'Allemagne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehan. De l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Préface. Ce 1er octobre 1813. En 1810, je donnais le manuscrit de cet ouvrage sur l'Allemagne au libraire qui avait imprimé Corinne. Comme j'y manifestais les mêmes opinions et que j'y gardais le même silence sur le gouvernement actuel des Français que dans mes écrits précédents, je me flattais qu'il me serait aussi permis de le publier. Toutefois, peu de jours après l'envoi de mon manuscrit, il parut un décret sur la liberté de la presse d'une nature très singulière. Il y était dit qu'aucun ouvrage ne pourrait être imprimé sans avoir été examiné par des censeurs. Soit on était accoutumé en France sous l'Ancien Régime à se soumettre à la censure. L'esprit public marchait alors dans le sens de la liberté et rendait une telle gêne peu redoutable. Mais un petit article, à la fin du nouveau règlement, disait que, lorsque les censeurs auraient examiné un ouvrage et permis sa publication, les libraires seraient en effet autorisés à l'imprimer, mais que le ministre de la police aurait alors le droit de le supprimer tout entier, s'il le jugeait convenable. Ce qui veut dire que telle ou telle forme serait adoptée, jusqu'à ce qu'on jugeât à propos de ne plus les suivre. Une loi n'était pas nécessaire pour décréter l'absence des lois. Il valait mieux s'en tenir au simple fait du pouvoir absolu. Mon libraire, cependant, prit sur lui la responsabilité de la publication de mon livre, en le soumettant à la censure, et notre accord fut ainsi conclu. Je vins à 40 lieues de Paris pour suivre l'impression de cet ouvrage, et c'est là que, pour la dernière fois, j'ai respiré l'air de France. Je m'étais interdit dans ce livre, comme on le verra, toute réflexion sur l'état politique de l'Allemagne. Je me supposais à 50 années du temps présent, mais le temps présent ne permet pas qu'on l'oublie. Plusieurs censeurs examinèrent mon manuscrit. Ils supprimèrent les diverses phrases que j'ai rétablies, en les désignant par des notes. Enfin, à ces phrases près, ils permirent l'impression du livre tel que je le publie maintenant, car je n'ai cru devoir y rien changer. Il me semble curieux de montrer quel est un ouvrage qui peut attirer maintenant en France sur la tête de son auteur la persécution la plus cruelle. Au moment où cet ouvrage allait paraître, et lorsqu'on avait déjà tiré les 10 000 exemplaires de la première édition, le ministre de la police, connu sous le nom du général Savary, envoya ses gendarmes chez le libraire avec ordre de mettre en pièces toute l'édition et d'établir des sentinelles aux diverses issues du magasin, dans la crainte qu'un seul exemplaire de ce dangereux écrit ne pût s'échapper. Un commissaire de police fut chargé de surveiller cette expédition, dans laquelle le général Savary obtint aisément la victoire. Et ce pauvre commissaire est, dit-on, mort des fatigues qu'il a éprouvées en s'assurant avec trop de détails de la destruction d'un si grand nombre de volumes, ou plutôt de leur transformation en un carton parfaitement blanc, sur lequel aucune trace de la raison humaine n'est restée. La valeur intrinsèque de ce carton, estimée à 20 louis, est le seul dédommagement que le libraire ait obtenu du général ministre. Au moment où l'on anéantissait mon livre à Paris, je reçus à la campagne l'ordre de livrer la copie sur laquelle on l'avait imprimée et de quitter la France dans les 24 heures. Je ne connais guère que les conscrits, à qui 24 heures suffisent pour se mettre en voyage. J'écrivis donc au ministre de la police qu'il me fallait 8 jours pour faire venir de l'argent et ma voiture. Voici la lettre qu'il me répondit. Police générale, cabinet du ministre, Paris, 3 octobre 1810. J'ai reçu, madame, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Monsieur votre fils a dû vous apprendre que je ne voyais pas d'inconvénient à ce que vous retardassiez votre départ de 7 à 8 jours. Je désire qu'il suffise aux arrangements qui vous restent à prendre, parce que je ne puis vous en accorder davantage. Il ne faut point rechercher la cause de l'ordre que je vous ai signifié dans le silence que vous avez gardé à l'égard de l'empereur dans votre dernier ouvrage. Ce serait une erreur. Il ne pouvait pas y trouver de place qui fût digne de lui. Mais votre exil est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez constamment depuis plusieurs années. Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre dernier ouvrage n'est point français. C'est moi qui en ai arrêté l'impression. Je regrette la perte qu'il va faire éprouver au libraire, mais il ne m'est pas possible de le laisser paraître. Vous savez, madame, qu'il ne vous avait été permis de sortir de Copé que parce que vous aviez exprimé le désir de passer en Amérique. Si mon prédécesseur vous a laissé habiter le département de Loir-et-Cher, vous n'avez pas dû regarder cette tolérance comme une révocation des dispositions qui avaient été arrêtées à votre égard. Aujourd'hui, vous m'obligez à les faire exécuter strictement, et il ne faut vous en prendre qu'à vous-même. Je mande à M. Corbigny, préfet de Loir-et-Cher, de tenir la main à l'exécution de l'ordre que je lui ai donné, lorsque le délai que je vous accorde sera expiré. Je suis au regret, madame, que vous m'ayez contraint de commencer ma correspondance avec vous par une mesure de rigueur. Il m'aurait été plus agréable de n'avoir qu'à vous offrir des témoignages de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, madame, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé le duc de Rovigo. Madame de Staël, post-scriptum. J'ai des raisons, madame, pour vous indiquer les ports de Lorient, La Rochelle, Bordeaux et Rochefort comme étant les seuls ports dans lesquels vous pouvez vous embarquer. Je vous invite à me faire connaître celui que vous aurez choisi. Note. Le but de ce post-scriptum était de m'interdire les ports de la Manche. Fin de note. J'ajouterai quelques réflexions à cette lettre déjà, ce me semble, assez curieuse par elle-même. Il m'a paru, dit le général Savary, que l'air de ce pays ne vous convenait pas. Quelle gracieuse manière d'annoncer à une femme, alors hélas mère de 3 enfants, à la fille d'un homme qui a servi la France avec tant de foi, qu'on la bannit à jamais du lieu de sa naissance, sans qu'il lui soit permis de réclamer d'aucune manière contre une peine réputée la plus cruelle après la condamnation à mort. Il existe un vaudeville français dans lequel un huissier se vantant de sa politesse envers ceux qu'il conduit en prison dit « Aussi, je suis aimé de tous ceux que j'arrête. » Je ne sais si telle était l'intention du général Savary. Il ajoute que « les Français n'en sont pas réduits à prendre pour modèle les peuples que j'admire. » Ces peuples, ce sont les Anglais d'abord, et à plusieurs égards les Allemands. Toutefois, je ne crois pas qu'on puisse m'accuser de ne pas aimer la France. Je n'ai que trop montré le regret d'un séjour où je conserve tant d'objets d'affection, où ceux qui me sont chers me plaisent tant. Mais de cet attachement peut-être trop vif pour une contrée si brillante et pour ses spirituels habitants, il ne s'ensuivait point qu'il dût m'être interdit d'admirer l'Angleterre. On l'a vu comme un chevalier armé pour la défense de l'ordre social, préserver l'Europe pendant 10 années de l'anarchie et pendant 10 autres du despotisme. son heureuse constitution fut, au commencement de la Révolution, le but des espérances et des efforts des Français. Mon âme en est restée où la leur était alors. À mon retour dans la terre de mon père, le préfet de Genève me défendit de m'en éloigner à plus de 4 lieues. Je me permis un jour d'aller jusqu'à 10, dans le simple but d'une promenade. Aussitôt les gendarmes coururent après moi. L'on défendit au maître de poste de me donner des chevaux, et l'on eût dit que le salut de l'État dépendait d'une aussi faible existence que la mienne. Je me résignai cependant encore à cet emprisonnement dans toute sa rigueur, quand un dernier coup me le rendit tout à fait insupportable. Quelques-uns de mes amis furent exilés, parce qu'ils avaient eu la générosité de venir me voir. C'en était trop. Porter avec soi la contagion du malheur. Ne pas oser se rapprocher de ceux qu'on aime. Craindre de leur écrire, de prononcer leur nom. Être l'objet, tour à tour, ou des preuves d'affection qui font trembler pour ceux qui vous les donnent, ou des bassesses raffinées que la terreur inspire. C'était une situation à laquelle il fallait se soustraire si l'on voulait encore vivre. On me disait, pour adoucir mon chagrin, que ces persécutions continuelles étaient une preuve de l'importance qu'on attachait à moi. J'aurais pu répondre que je n'avais pas mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Mais je ne me laissais point aller aux consolations données à mon amour-propre, car je savais qu'il n'est personne maintenant en France, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, qui ne puisse être trouvé digne d'être rendu malheureux. On me tourmenta dans tous les intérêts de ma vie, dans tous les points sensibles de mon caractère, et l'autorité condescendit à se donner la peine de me bien connaître pour mieux me faire souffrir. Ne pouvant donc désarmer cette autorité par le simple sacrifice de mon talent et résolu à ne lui en pas offrir le servage, je crus sentir au fond de mon cœur ce que m'aurait conseillé mon père, et je partis. Il m'importe, je le crois, de faire connaître au public ce livre calomnié, ce livre source de tant de peine. Et quoique le général Savary m'ait déclaré dans sa lettre que mon ouvrage n'était pas français, comme je me garde bien de voir en lui le représentant de la France, c'est aux Français, tels que je les ai connus, que j'adresserai avec confiance un écrit où j'ai tâché, selon mes forces, de relever la gloire des travaux de l'esprit humain. L'Allemagne, par sa situation géographique, peut être considérée comme le cœur de l'Europe. Et la grande association continentale ne saurait retrouver son indépendance que par celle de ce pays. La différence des langues, les limites naturelles, les souvenirs d'une même histoire, tout contribue à créer parmi les hommes ces grands individus qu'on appelle des nations. De certaines proportions leur sont nécessaires pour exister, de certaines qualités les distinguent. Et si l'Allemagne était réunie à la France, il s'ensuivrait aussi que la France serait réunie à l'Allemagne, et que les Français de Hambourg, comme les Français de Rome, altéreraient par degrés le caractère des compatriotes de Henri IV. Les vaincus, à la longue, modifieraient les vainqueurs, et tout se finirait par y perdre. J'ai dit dans mon ouvrage que les Allemands n'étaient pas une nation. Et certes, ils donnent au monde maintenant d'héroïques démentis à cette crainte. Mais ne voit-on pas cependant quelques pays germaniques s'exposer, en combattant contre leurs compatriotes, au mépris de leurs alliés même, les Français ? Ces auxiliaires dont on hésite à prononcer le nom, comme s'il était temps encore de le cacher à la postérité, ces auxiliaires, dis-je, ne sont conduits ni par l'opinion, ni même par l'intérêt, encore moins par l'honneur. Mais une peur imprévoyante a précipité leur gouvernement vers le plus fort, sans réfléchir qu'ils étaient eux-mêmes la cause de cette force devant laquelle ils se prosternaient. Les Espagnols, à qui l'on peut appliquer ce beau vers anglais de Sauzet. « And those who suffer bravely serve mankind. » Et ceux qui souffrent bravement sauvent l'espèce humaine. Les Espagnols, se sont vus réduits à ne posséder que Cadix. Ils n'auraient pas plus consenti alors au joug des étrangers que depuis qu'ils ont atteint la barrière des Pyrénées et qu'ils sont défendus par le caractère antique et le génie moderne de Lord Wellington. Mais pour accompagner ces grandes choses, il fallait une persévérance que l'événement ne saurait décourager. Les Allemands ont eu souvent le tort de se laisser convaincre par les revers. Les individus doivent se résigner à la destinée, mais jamais les nations, car ce sont elles qui seules peuvent commander à cette destinée. Une volonté de plus et le malheur serait dompté. La soumission d'un peuple à un autre est contre nature. Qui croirait maintenant à la possibilité d'entamer l'Espagne, la Russie, l'Angleterre, la France? Pourquoi n'en serait-il pas de même de l'Allemagne? Si les Allemands pouvaient encore être asservis, leur infortune déchirerait le cœur. Mais on serait toujours tenté de leur dire, comme Mademoiselle de Mancini à Louis XIV, « Vous êtes roi, sire, et vous pleurez. Vous êtes une nation, et vous pleurez. » Le tableau de la littérature et de la philosophie semble bien étranger au moment actuel. Cependant, il sera peut-être doux à cette pauvre et noble Allemagne de se rappeler ses richesses intellectuelles au milieu des ravages de la guerre. Il y a 3 ans que je désignais la Prusse et les pays du Nord qui l'environnent comme la patrie de la pensée. En combien d'actions généreuses cette pensée ne s'est-elle pas transformée? Ce que les philosophes mettaient en système s'accomplit, et l'indépendance de l'âme fondera celle des États.
Fin de la section 0. Section 1 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Observation générale. On peut rapporter l'origine des principales nations de l'Europe à 3 grandes races différentes. La race latine, la race germanique et la race esclavone. Les Italiens, les Français, les Espagnols et les Portugais ont reçu des Romains leur civilisation et leur langage. Les Allemands, les Suisses, les Anglais, les Suédois, les Danoises et les Hollandais sont des peuples teutoniques. Enfin, parmi les esclavons, les Romains et les Russes occupent le premier rang. Les nations dont la culture intellectuelle est d'origine latine sont plus anciennement civilisées que les autres. Elles ont pour la plupart hérité de l'habile sagacité des Romains dans le maniement des affaires de ce monde. Des institutions sociales, fondées sur la religion païenne, ont précédé chez elles l'établissement du christianisme. Et quand les peuples du Nord sont venus les conquérir, ces peuples ont adopté, à beaucoup d'égards, les mœurs du pays dont ils étaient les vainqueurs. Ces observations doivent sans doute être modifiées d'après les climats, les gouvernements et les faits de chaque histoire. La puissance ecclésiastique a laissé des traces ineffaçables en Italie. Les longues guerres avec les Arabes ont fortifié les habitudes militaires et l'esprit entreprenant des Espagnols. Mais, en général, cette partie de l'Europe, dont les langues dérivent du latin, et qui a été initiée de bonne heure dans la politique de Rome, porte le caractère d'une vieille civilisation, d'une civilisation qui, dans l'origine, était païenne. On y trouve moins de penchant pour les idées abstraites que dans les nations germaniques. On s'y entend mieux aux plaisirs et aux affaires terrestres. Et ces peuples, comme leurs instituteurs, les Romains, savent seuls pratiquer l'art de dominer le monde. Les nations germaniques ont presque toujours résisté au joug des Romains. Elles ont été civilisées plus tard et seulement par le christianisme. Elles ont passé immédiatement d'une sorte de barbarie à la société chrétienne. Les temps de la chevalerie, l'esprit du Moyen-Âge, sont leurs souvenirs les plus vifs. Et quoique les savants de ces pays aient étudié les auteurs grecs et latins, plus même que ne l'ont fait les nations latines, le génie naturel aux écrivains allemands est d'une couleur ancienne, plutôt qu'antique. Leur imagination se plaît dans les vieilles tours, dans les créneaux, au milieu des guerriers, des sorcières et des revenants. Et les mystères d'une nature rêveuse et solitaire forment le principal charme de leur poésie. L'analogie qui existe entre les nations teutoniques ne saurait être méconnue. La dignité sociale que les Anglais doivent à leur constitution leur assure, il est vrai, parmi ces nations, une supériorité décidée. Néanmoins, les mêmes traits de caractère se retrouvent constamment parmi les divers peuples d'origine germanique. L'indépendance et la loyauté signalèrent de tout temps ces peuples. Ils ont été toujours bons et fidèles, et c'est à cause de cela même, peut-être, que leurs écrits portent une empreinte de mélancolie. Car il arrive souvent aux nations, comme aux individus, de souffrir pour leurs vertus. La civilisation des esclavons, ayant été plus moderne et plus précipitée que celle des autres peuples, on voit plutôt en eux jusqu'à présent l'imitation que l'originalité. Ce qu'ils ont d'européen est français. Ce qu'ils ont d'asiatique est trop peu développé ou trop comprimé pour qu'ils manifestent encore le véritable caractère qui leur serait naturel. Il n'y a donc dans l'Europe littéraire que deux grandes divisions très marquées. La littérature imitée des anciens est celle qui doit sa naissance à l'esprit du Moyen-Âge. La littérature qui, dans son origine, a reçu du paganisme sa couleur et son charme, et la littérature dont l'impulsion et le développement appartiennent à une religion essentiellement spiritualiste. On pourrait dire avec raison que les Français et les Allemands sont aux deux extrémités de la chaîne morale. Puisque les uns considèrent les objets extérieurs comme le mobile de toutes les idées, et les autres les idées comme le mobile de toutes les impressions. Ces deux nations cependant s'accordent assez bien sous les rapports sociaux. Mais il n'en est point de plus opposé dans leur système littéraire et philosophique. L'Allemagne intellectuelle n'est presque pas connue de la France. Bien peu d'hommes de lettres parmi nous s'en sont occupés. Il est vrai qu'un beaucoup plus grand nombre la juge. Cette agréable légèreté qui fait prononcer sur ce qu'on ignore peut avoir de l'élégance quand on parle, mais non quand on écrit. Les Allemands ont le tort de mettre souvent dans la conversation ce qui ne convient qu'aux livres. Les Français ont quelquefois aussi celui de mettre dans les livres ce qui ne convient qu'à la conversation. Et nous avons tellement épuisé tout ce qui est superficiel que, même pour la grâce, et surtout pour la variété, il faudrait, ce me semble, essayer d'un peu plus de profondeur. J'ai donc cru qu'il pouvait y avoir quelques avantages à faire connaître le pays de l'Europe où l'étude et la méditation ont été portées si loin qu'on peut le considérer comme la patrie de la pensée. Les réflexions que le pays et les livres m'ont suggérées seront partagées en 4 sections. La première traitera de l'Allemagne et des mœurs des Allemands. La seconde, de la littérature et des arts. La troisième, de la philosophie et de la morale. La quatrième, de la religion et de l'enthousiasme. Ces divers sujets se mêlent nécessairement les uns avec les autres. Le caractère national influe sur la littérature, la littérature et la philosophie sur la religion, et l'ensemble peut seul faire connaître en entier chaque partie. Mais il fallait cependant se soumettre à une division apparente pour rassembler à la fin tous les rayons dans le même foyer. Je ne me dissimule point que je vais exposer en littérature comme en philosophie des opinions étrangères à celles qui règnent en France. Mais soit qu'elles paraissent justes ou non, soit qu'on les adopte ou qu'on les combatte, elles donnent toujours à penser. Car nous n'en sommes pas, j'imagine, à vouloir élever autour de la France littéraire la grande muraille de Chine pour empêcher les idées du dehors d'y pénétrer. Il est impossible que les écrivains allemands, ces hommes les plus instruits et les plus méditatifs de l'Europe, ne méritent pas qu'on accorde un moment d'attention à leur littérature et à leur philosophie. On oppose à l'une qu'elle n'est pas de bon goût, et à l'autre qu'elle est pleine de folie. Il se pourrait qu'une littérature ne fut pas conforme à notre législation du bon goût, et qu'elle contint des idées nouvelles, dont nous pussions nous enrichir en les modifiant à notre manière. C'est ainsi que les Grecs nous ont valu Racine, et Shakespeare plusieurs des tragédies de Voltaire. La stérilité dont notre littérature est menacée ferait croire que l'esprit français lui-même a besoin maintenant d'être renouvelé par une sève plus vigoureuse. Et comme l'élégance de la société nous préservera toujours de certaines fautes, il nous importe surtout de retrouver la source des grandes beautés. Après avoir repoussé la littérature des Allemands au nom du bon goût, on croit pouvoir aussi se débarrasser de leur philosophie au nom de la raison. Le bon goût et la raison sont des paroles qu'il est toujours agréable de prononcer, même au hasard. Mais peut-on de bonne foi se persuader que des écrivains d'une érudition immense, et qui connaissent tous les livres français aussi bien que nous-mêmes, s'occupent depuis 20 années de pures absurdités? Les siècles superstitieux accusent facilement les idées nouvelles d'impiété, et les siècles incrédules les accusent non moins facilement de folie. Dans le XVIe siècle, Galilée a été livré à l'Inquisition pour avoir dit que la Terre tournait. Et dans le XVIIIe, quelques-uns ont voulu faire passer Jean-Jacques Rousseau pour un dévot fanatique. Les opinions qui diffèrent de l'esprit dominant, quel qu'il soit, scandalisent toujours le vulgaire. L'étude et l'examen peuvent seuls donner cette libéralité de jugement, sans laquelle il est impossible d'acquérir des lumières nouvelles, ou de conserver même celles qu'on a, car on se soumet à de certaines idées reçues, non comme à des vérités, mais comme au pouvoir. Et c'est ainsi que la raison humaine s'habitue à la servitude, dans le champ même de la littérature et de la philosophie.
Fin de la section 1. Section 2 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Première partie. De l'Allemagne et des mœurs des Allemands. Chapitre 1er. De l'aspect de l'Allemagne. La multitude et l'étendue des forêts indiquent une civilisation encore nouvelle. Le vieux sol du Midi ne conserve presque plus d'arbres, et le soleil tombe à plomb sur la terre dépouillée par les hommes. L'Allemagne offre encore quelques traces d'une nature non habitée. Depuis les Alpes jusqu'à la mer, entre le Rhin et le Danube, vous voyez un pays couvert de chênes et de sapins, traversé par des fleuves d'une imposante beauté, et coupé par des montagnes dont l'aspect est très pittoresque. Mais de vastes bruyères, des sables, des routes souvent négligées, un climat sévère, remplissent d'abord l'âme de tristesse. Et ce n'est qu'à la longue qu'on découvre ce qui peut attacher à ce séjour. Le Midi de l'Allemagne est très bien cultivé. Cependant, il y a toujours dans les plus belles contrées de ce pays quelque chose de sérieux qui fait plutôt penser au travail qu'au plaisir, aux vertus des habitants qu'au charme de la nature. Les débris des châteaux forts qu'on aperçoit sur le haut des montagnes, les maisons bâties de terre, les fenêtres étroites, les neiges qui, pendant l'hiver, couvrent des plaines à perte de vue, causent une impression pénible. Je ne sais quoi de silencieux dans la nature et dans les hommes resserre d'abord le cœur. Il semble que le temps marche là plus lentement qu'ailleurs, que la végétation ne se presse pas plus dans le sol que les idées dans la tête des hommes, et que les sillons réguliers du laboureur y sont tracés sur une terre pesante. Néanmoins, quand on a surmonté ces sensations irréfléchies, le pays et les habitants offrent à l'observation quelque chose d'intéressant et de poétique. Vous sentez que des âmes et des imaginations douces ont embelli ces campagnes. Les grands chemins sont plantés d'arbres fruitiers, placés là pour rafraîchir le voyageur. Les paysages dont le Rhin est entouré sont superbes presque partout. On dirait que ce fleuve est le génie tutélaire de l'Allemagne. Ses flots sont purs, rapides et majestueux comme la vie d'un ancien héros. Le Danube se divise en plusieurs branches. Les ondes de l'Elbe et de la Sprée se troublent facilement par l'orage. Le Rhin seul est presque inaltérable. Les contrées qu'il traverse paraissent tout à la fois si sérieuses et si variées, si fertiles et si solitaires, qu'on serait tenté de croire que c'est lui-même qui les a cultivées, et que les hommes d'à présent n'y sont pour rien. Ce fleuve raconte, en passant, les hauts faits des temps jadis, et l'ombre d'Arminius semble errer encore sur ses rivages escarpés. Les monuments gothiques sont les seuls remarquables en Allemagne. Ces monuments rappellent les siècles de la chevalerie. Dans presque toutes les villes, les musées publics conservent des restes de ces temps-là. On dirait que les habitants du Nord, vainqueurs du monde, en partant de la Germanie, y ont laissé leurs souvenirs sous diverses formes, et que le pays tout entier ressemble au séjour d'un grand peuple qui, depuis longtemps, l'a quitté. Il y a, dans la plupart des arsenaux des villes allemandes, des figures de chevaliers en bois, revêtues de leur armure. Le casque, le bouclier, les cuissards, les éperons, tout est selon l'ancien usage, et l'on se promène au milieu de ces morts debout, dont les bras levés semblent prêts à frapper leurs adversaires, qui tiennent aussi de même leurs lances en arrêt. Cette image immobile d'action, jadis si vive, cause une impression pénible. C'est ainsi qu'après les tremblements de terre, on a retrouvé des hommes engloutis qui avaient gardé pendant longtemps encore le dernier geste de leur dernière pensée. L'architecture moderne, en Allemagne, n'offre rien qui mérite d'être cité, mais les villes sont en général bien bâties, et les propriétaires les embellissent avec une sorte de soin plein de bonhomie. Les maisons dans plusieurs villes sont peintes en dehors de diverses couleurs. On y voit des figures de saints, des ornements de tout genre, dont le goût n'est assurément pas parfait, mais qui varie l'aspect des habitations, et semblent indiquer un désir bienveillant de plaire à ses concitoyens et aux étrangers. L'éclat et la splendeur d'un palais servent à l'amour-propre de celui qui le possède. Mais la décoration soignée, la parure et la bonne intention des petites demeures ont quelque chose d'hospitalier. Les jardins sont presque aussi beaux dans quelques parties de l'Allemagne qu'en Angleterre. Le luxe des jardins suppose toujours qu'on aime la nature. En Angleterre, des maisons très simples sont bâties au milieu des parcs les plus magnifiques. Le propriétaire néglige sa demeure et pare avec soin la campagne. Cette magnificence et cette simplicité réunies n'existent sûrement pas au même degré en Allemagne. Cependant, à travers le manque de fortune et l'orgueil féodal, on aperçoit en tout un certain amour du beau, qui, tôt ou tard, doit donner du goût et de la grâce, puisqu'il en est la véritable source. Souvent au milieu des superbes jardins des princes allemands, l'on place des harpes éoliennes près des grottes entourées de fleurs, afin que le vent transporte dans les airs des sons et des parfums tout ensemble. L'imagination des habitants du Nord tâche ainsi de se composer une nature d'Italie, et pendant les jours brillants d'un été rapide, l'on parvient quelquefois à s'y tromper.
Fin de la section 2. Section 3 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 2. Des mœurs et du caractère des Allemands. Quelques traits principaux peuvent seuls convenir également à toute la nation allemande, car les diversités de ce pays sont telles qu'on ne sait comment réunir sous un même point de vue des religions, des gouvernements, des climats, des peuples même si différents. L'Allemagne du Midi est, à beaucoup d'égards, tout autre que celle du Nord. Les villes de commerce ne ressemblent point aux villes célèbres par leurs universités. Les petits États diffèrent sensiblement des deux grandes monarchies, la Prusse et l'Autriche. L'Allemagne était une fédération aristocratique. Cet empire n'avait point un centre commun de lumières et d'esprits publics. Il ne formait pas une nation compacte, et le lien manquait au faisceau. Cette division de l'Allemagne, funeste à sa force politique, était cependant très favorable aux essais de tout genre que pouvaient tenter le génie et l'imagination. Il y avait une sorte d'anarchie douce et paisible, en fait d'opinions littéraires et métaphysiques, qui permettait à chaque homme le développement entier de sa manière de voir individuelle. Comme il n'existe point de capitale où se rassemble la bonne compagnie de toute l'Allemagne, l'esprit de société y exerce peu de pouvoir. L'empire du goût et l'arme du ridicule y sont sans influence. La plupart des écrivains et des penseurs travaillent dans la solitude, ou seulement entourés d'un petit cercle qui les domine. Ils se laissent aller, chacun séparément, à tout ce que leur inspire une imagination sans contrainte. Et si l'on peut apercevoir quelques traces de l'ascendant de la mode en Allemagne, c'est par le désir que chacun éprouve de se montrer tout à fait différent des autres. En France, au contraire, chacun aspire à mériter ce que Montesquieu disait de Voltaire. Il a plus que personne l'esprit que tout le monde a. Les écrivains allemands imiteraient plus volontiers encore les étrangers que leurs compatriotes. En littérature, comme en politique, les Allemands ont trop de considération pour les étrangers et pas assez de préjugés nationaux. C'est une qualité dans les individus que l'abnégation de soi-même et l'estime des autres. Mais le patriotisme des nations doit être égoïste. La fierté des Anglais sert puissamment à leur existence politique. La bonne opinion que les Français ont d'eux-mêmes a toujours beaucoup contribué à leur ascendant sur l'Europe. Le noble orgueil des Espagnols les a rendus souverains d'une portion du monde. Les Allemands sont saxons, prussiens, bavarois, autrichiens. Mais le caractère germanique, sur lequel devrait se fonder la force de tous, est morcelé comme la terre même qui a tant de différents maîtres. J'examinerai séparément l'Allemagne du Midi et celle du Nord. Mais je me bornerai maintenant aux réflexions qui conviennent à la nation entière. Les Allemands ont en général de la sincérité et de la fidélité. Ils ne manquent presque jamais à leurs paroles, et la tromperie leur est étrangère. Si ce défaut s'introduisait jamais en Allemagne, ce ne pourrait être que par l'envie d'imiter les étrangers, de se montrer aussi habile qu'eux, et surtout de n'être pas leur dupe. Mais le bon sens et le bon cœur ramèneraient bientôt les Allemands à sentir qu'on est fort que par sa propre nature, et que l'habitude de l'honnêteté rend tout à fait incapable, même quand on le veut, de se servir de la ruse. Il faut, pour tirer parti de l'immoralité, être armé tout à fait à la légère, et ne pas porter en soi-même une conscience et des scrupules qui vous arrêtent à moitié chemin et vous font éprouver d'autant plus vivement le regret d'avoir quitté l'ancienne route qu'il vous est impossible d'avancer hardiment dans la nouvelle. Il est aisé, je le crois, de démontrer que, sans la morale, tout est hasard et ténèbres. Néanmoins, on a vu souvent chez les nations latines une politique singulièrement adroite dans l'art de s'affranchir de tous les devoirs. Mais on peut le dire à la gloire de la nation allemande, elle a presque l'incapacité de cette souplesse hardie qui fait plier toutes les vérités pour tous les intérêts et sacrifie tous les engagements à tous les calculs. Ses défauts, comme ses qualités, la soumettent à l'honorable nécessité de la justice. La puissance du travail et de la réflexion est aussi l'un des traits distinctifs de la nation allemande. Elle est naturellement littéraire et philosophique. Toutefois, la séparation des classes, qui est plus prononcée en Allemagne que partout ailleurs, parce que la société n'en adoucit pas les nuances, nuit à quelques égards à l'esprit proprement dit. Les nobles y ont trop peu d'idées, et les gens de lettres trop peu d'habitude des affaires. L'esprit est un mélange de la connaissance des choses et des hommes, et la société où l'on agit sans but, et pourtant avec intérêt, est précisément ce qui développe le mieux les facultés les plus opposées. C'est l'imagination, plus que l'esprit, qui caractérise les Allemands. J.P. Richter, l'un de leurs écrivains les plus distingués, a dit que l'empire de la mer était aux Anglais, celui de la terre aux Français et celui de l'air aux Allemands. En effet, on aurait besoin en Allemagne de donner un centre et des bornes à cette éminente faculté de pensée qui s'élève et se perd dans le vague, pénètre et disparaît dans la profondeur, s'anéantit à force d'impartialité, se confond à force d'analyse, enfin manque de certains défauts qui puissent servir de circonscription à ses qualités. On a beaucoup de peine à s'accoutumer, en sortant de France, à la lenteur et à l'inertie du peuple allemand. Il ne se presse jamais, il trouve des obstacles à tout. Vous entendez dire en Allemagne « c'est impossible, 100 fois contre une » en France. Quand il est question d'agir, les Allemands ne savent pas lutter avec les difficultés. Et leur respect pour la puissance vient plus encore de ce qu'elle ressemble à la destinée que d'aucun motif intéressé. Les gens du peuple ont des formes assez grossières, surtout quand on veut heurter leur manière d'être habituelle. Ils auraient naturellement, plus que les nobles, cette sainte antipathie pour les mœurs, les coutumes et les langues étrangères qui fortifient dans tous les pays le lien national. L'argent qu'on leur offre ne dérange pas leur façon d'agir. La peur ne les en détourne pas. Ils sont très capables, enfin, de cette fixité en toute chose, qui est une excellente donnée pour la morale. Car l'homme que la crainte, et plus encore l'espérance, met sans cesse en mouvement, passe aisément d'une opinion à l'autre, quand son intérêt l'exige. Dès que l'on s'élève un peu au-dessus de la dernière classe du peuple en Allemagne, on s'aperçoit aisément de cette vie intime, de cette poésie de l'âme qui caractérise les Allemands. Les habitants des villes et des campagnes, les soldats et les laboureurs, savent presque tous la musique. Il m'est arrivé d'entrer dans de pauvres maisons noircies par la fumée de tabac et d'entendre tout à coup non seulement la maîtresse, mais le maître du logis improviser sur le clavecin comme les Italiens improvisent en vers. L'on a soin, presque partout, que, les jours de marché, il y ait des joueurs d'instruments avant sur le balcon de l'hôtel de ville qui domine la place publique. Les paysans des environs participent ainsi à la douce jouissance du premier des arts. Les écoliers se promènent dans les rues, le dimanche, en chantant les psaumes en chœur. On raconte que Luther fit souvent partie de ce chœur dans sa première jeunesse. J'étais à Eisenach, petite ville de Saxe, un jour d'hiver si froid que les rues mêmes étaient encombrées de neige. Je vis une longue suite de jeunes gens en manteau noir qui traversaient la ville en célébrant les louanges de Dieu. Il n'y avait qu'eux dans la rue, car la rigueur des frimas en écartait tout le monde. Et ces voix, presque aussi harmonieuses que celles du midi, en se faisant entendre au milieu d'une nature si sévère, causaient d'autant plus d'attendrissement. Les habitants de la ville n'osaient, par ce froid terrible, ouvrir leurs fenêtres, mais on apercevait, derrière les vitraux, des visages tristes ou sereins, jeunes ou vieux, qui recevaient avec joie les consolations religieuses que leur offrait cette douce mélodie. Les pauvres bohèmes, lorsqu'ils voyagent, suivis de leurs femmes et de leurs enfants, portent sur leur dos une mauvaise harpe d'un bois grossier, dont ils tirent des sons harmonieux. Ils en jouent quand ils se reposent au pied d'un arbre sur les grands chemins, ou lorsqu'auprès des maisons de poste, ils tâchent d'intéresser les voyageurs par le concert ambulant de leur famille errante. Les troupeaux, en Autriche, sont gardés par des bergers qui jouent des airs charmants sur des instruments simples et sonores. Ces airs s'accordent parfaitement avec l'impression douce et rêveuse que produit la campagne. La musique instrumentale est aussi généralement cultivée en Allemagne que la musique vocale en Italie. La nature a plus fait à cet égard, comme à tant d'autres, pour l'Italie que pour l'Allemagne. Il faut du travail pour la musique instrumentale, tandis que le ciel du midi suffit pour rendre les voix belles. Mais néanmoins, les hommes de la classe laborieuse ne pourraient jamais donner à la musique le temps qu'il faut pour l'apprendre, s'ils n'étaient organisés pour la savoir. Les peuples naturellement musiciens reçoivent par l'harmonie des sensations et des idées que leur situation rétrécie et leurs occupations vulgaires ne leur permettraient pas de connaître autrement. Les paysannes et les servantes, qui n'ont pas assez d'argent pour se parer, ornent leur tête et leurs bras de quelques fleurs, pour qu'au moins l'imagination ait sa part dans leurs vêtements. D'autres, un peu plus riches, mettent les jours de fête un bonnet d'étoffe d'or d'assez mauvais goût et qui contraste avec la simplicité du reste de leur costume. Mais ce bonnet, que leurs mères ont aussi porté, rappelle les anciennes mœurs, et la parure cérémonieuse avec laquelle les femmes du peuple honorent le dimanche a quelque chose de grave qui intéresse en leur faveur. Il faut aussi savoir gré aux Allemands de la bonne volonté qu'ils témoignent par les révérences respectueuses et la politesse remplie de formalités que les étrangers ont si souvent tournées en ridicule. Ils auraient aisément pu remplacer par des manières froides et indifférentes la grâce et l'élégance qu'on les accusait de ne pouvoir atteindre. Le dédain impose toujours silence à la moquerie, car c'est surtout aux efforts inutiles qu'elle s'attache. Mais les caractères bienveillants aiment mieux s'exposer à la plaisanterie que de s'en préserver par l'air hautain et contenu qu'il est si facile à tout le monde de se donner. On est frappé sans cesse en Allemagne du contraste qui existe entre les sentiments et les habitudes, entre les talents et les goûts. La civilisation et la nature semblent ne s'être pas encore bien amalgamées ensemble. Quelquefois, des hommes très vrais sont affectés dans leurs expressions et dans leur physionomie, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Quelquefois, au contraire, la douceur de l'âme n'empêche pas la rudesse dans les manières. Souvent même, cette opposition va plus loin encore, et la faiblesse du caractère se fait voir à travers un langage et des formes dures. L'enthousiasme pour les arts et la poésie se réunit à des habitudes assez vulgaires dans la vie sociale. Il n'est point de pays où les hommes de lettres ou les jeunes gens qui étudient dans les universités connaissent mieux les langues anciennes et l'Antiquité. Mais il n'en est point toutefois où les usages surannés subsistent plus généralement encore. Les souvenirs de la Grèce, le goût des beaux-arts, semblent y être arrivés par correspondance. Mais les institutions féodales, les vieilles coutumes des Germains, y sont toujours en honneur, quoique, malheureusement pour la puissance militaire du pays, elles n'y aient plus la même force. Il n'est point d'assemblage plus bizarre que l'aspect guerrier de l'Allemagne entière, les soldats que l'on rencontre à chaque pas et le genre de vie casanier qu'on y mène. On y craint les fatigues et les intempéries de l'air, comme si la nation n'était composée que de négociants et d'hommes de lettres. Et toutes les institutions, cependant, tendent et doivent tendre à donner à la nation des habitudes militaires. Quand les peuples du Nord bravent les inconvénients de leur climat, ils s'endurcissent singulièrement contre tous les genres de maux. Le soldat russe en est la preuve. Mais quand le climat n'est qu'à demi rigoureux, et qu'il est encore possible d'échapper aux injures du ciel par des précautions domestiques, ces précautions mêmes rendent les hommes plus sensibles aux souffrances physiques de la guerre. Les poils, La bière et la fumée de tabac forment autour des gens du peuple en Allemagne une sorte d'atmosphère lourde et chaude dont ils n'aiment pas à sortir. Cette atmosphère nuit à l'activité, qui est au moins aussi nécessaire à la guerre que le courage. Les résolutions sont lentes, le découragement est facile, parce qu'une existence d'ordinaire assez triste ne donne pas beaucoup de confiance dans la fortune. L'habitude d'une manière d'être paisible et réglée prépare si mal aux chances multipliées du hasard qu'on se soumet plus volontiers à la mort qui vient avec méthode qu'à la vie aventureuse. La démarcation des classes, beaucoup plus positive en Allemagne qu'elle ne l'était en France, devait anéantir l'esprit militaire parmi les bourgeois. Cette démarcation n'a, dans le fait, rien d'offensant. Car, je le répète, la bonhomie se mêle à tout en Allemagne, même à l'orgueil aristocratique. Et les différences de rang se réduisent à quelques privilèges de cour, à quelques assemblées qui ne donnent pas assez de plaisir pour mériter de grands regrets. Rien n'est amer, dans quelque rapport que ce puisse être, lorsque la société, et par elle le ridicule, a peu de puissance. Les hommes ne peuvent se faire un véritable mal à l'âme que par la fausseté ou la moquerie. Dans un pays sérieux et vrai, il y a toujours de la justice et du bonheur. Mais la barrière qui séparait en Allemagne les nobles des citoyens rendait nécessairement la nation entière moins belliqueuse. L'imagination, qui est la qualité dominante de l'Allemagne, artiste et littéraire, inspire la crainte du péril, si l'on ne combat pas ce mouvement naturel par l'ascendant de l'opinion et l'exaltation de l'honneur. En France, déjà même autrefois, le goût de la guerre était universel, et les gens du peuple risquaient volontiers leur vie comme un moyen de l'agiter et d'en sentir moins le poids. C'est une grande question de savoir si les affections domestiques, l'habitude de la réflexion, la douceur même de l'âme, ne porte pas à redouter la mort. Mais si toute la force d'un État consiste dans son esprit militaire, il importe d'examiner quelles sont les causes qui ont affaibli cet esprit dans la nation allemande. Trois mobiles principaux conduisent d'ordinaire les hommes au combat : l'amour de la patrie et de la liberté, l'amour de la gloire et le fanatisme de la religion. Il n'y a point un grand amour pour la patrie dans un empire divisé depuis plusieurs siècles, où les Allemands combattaient contre les Allemands, presque toujours excités par une impulsion étrangère. L'amour de la gloire n'a pas beaucoup de vivacité là où il n'y a point de centre, point de capital, point de société. L'esprit d'impartialité, luxe de la justice, qui caractérise les Allemands, les rend beaucoup plus susceptibles de s'enflammer pour les pensées abstraites que pour les intérêts de la vie. Le général qui perd une bataille est plus sûr d'obtenir l'indulgence que celui qui la gagne ne l'est d'être vivement applaudi. Entre les succès et les revers, il n'y a pas assez de différence au milieu d'un tel peuple pour animer vivement l'ambition. La religion vit en Allemagne au fond des cœurs. Mais il y a maintenant un caractère de rêverie et d'indépendance qui n'inspire pas l'énergie nécessaire aux sentiments exclusifs. Le même isolement d'opinions, d'individus et d'États, si nuisible à la force de l'Empire germanique, se retrouve aussi dans la religion. Un grand nombre de sectes diverses partagent l'Allemagne. Et la religion catholique elle-même, qui, par sa nature, exerce une discipline uniforme et sévère, est interprétée cependant par chacun à sa manière. Le lien politique et social des peuples, un même gouvernement, un même culte, les mêmes lois, les mêmes intérêts, une littérature classique, une opinion dominante, rien de tout cela n'existe chez les Allemands. Chaque État en est plus indépendant, chaque science mieux cultivée. Mais la nation entière est tellement subdivisée qu'on ne sait à quelle partie de l'Empire ce nom même de nation doit être accordé. L'amour de la liberté n'est point développé chez les Allemands. Ils n'ont appris ni par la jouissance ni par la privation le prix qu'on peut y attacher. Il y a plusieurs exemples de gouvernements fédératifs qui donnent à l'esprit public autant de force que l'unité dans le gouvernement. Mais ce sont des associations d'États égaux et de citoyens libres. La fédération allemande était composée de forts et de faibles, de citoyens et de serfs, de rivaux et même d'ennemis. C'étaient d'anciens éléments combinés par les circonstances et respectés par les hommes. La nation est persévérante et juste, et son équité et sa loyauté empêchent qu'aucune institution, fût-elle vicieuse, n'y puisse y faire de mal. Louis de Bavière, partant pour l'armée, confia ses états à son rival Frédéric le Beau, alors son prisonnier. Il se trouva bien de cette confiance, qui dans ce temps n'étonna personne. Avec de telles vertus, on ne craignait pas les inconvénients de la faiblesse ou de la complication des lois. La probité des individus y suppléait. L'indépendance même dont on jouissait en Allemagne, sous presque tous les rapports, rendait les Allemands indifférents à la liberté. L'indépendance est un bien, la liberté une garantie. Et précisément parce que personne n'était froissé en Allemagne, ni dans ses droits, ni dans ses jouissances, on ne sentait pas le besoin d'un ordre de choses qui maintînt ce bonheur. Les tribunaux de l'Empire promettaient une justice sûre, quoique lente, contre tout acte arbitraire. Et la modération des souverains et la sagesse de leur peuple ne donnaient presque jamais lieu à des réclamations. On ne croyait donc pas avoir besoin de fortifications constitutionnelles quand on ne voyait point d'agresseurs. On a raison de s'étonner que le code féodal ait subsisté presque sans altération parmi des hommes si éclairés. Mais comme dans l'exécution de ces lois défectueuses en elles-mêmes, il n'y avait jamais d'injustice, l'égalité dans l'application consolait de l'inégalité dans le principe. Les vieilles chartes, les anciens privilèges de chaque ville, toute cette histoire de famille qui fait le charme et la gloire des petits États, étaient singulièrement chères aux Allemands, mais ils négligeaient la grande puissance nationale qu'il importait tant de fonder au milieu des colosses européens. Les Allemands, à quelques exceptions près, sont peu capables de réussir dans tout ce qui exige de l'adresse et de l'habileté. Tout les inquiète, tout les embarrasse, et ils ont autant besoin de méthode dans les actions que d'indépendance dans les idées. Les Français, au contraire, considèrent les actions avec la liberté de l'art, et les idées avec l'asservissement de l'usage. Les Allemands, qui ne peuvent souffrir le joug des règles en littérature, voudraient que tout leur fût tracé d'avance en fait de conduite. Ils ne savent pas traiter avec les hommes, et moins on leur donne à cet égard l'occasion de se décider par eux-mêmes, plus ils sont satisfaits. Les institutions politiques peuvent seules former le caractère d'une nation. La nature du gouvernement de l'Allemagne était presque en opposition avec les lumières philosophiques des Allemands. De là vient qu'ils réunissent la plus grande audace de pensée au caractère le plus obéissant. La prééminence de l'état militaire et les distinctions de rang les ont accoutumés à la soumission la plus exacte dans les rapports de la vie sociale. Ce n'est pas servilité, c'est régularité chez eux que l'obéissance. Ils sont scrupuleux dans l'accomplissement des ordres qu'ils reçoivent, comme si tout ordre était un devoir. Les hommes éclairés de l'Allemagne se disputent avec vivacité le domaine des spéculations et ne souffrent dans ce genre aucune entrave. Mais ils abandonnent assez volontiers aux puissants de la terre tout le réel de la vie. Ce réel, si dédaigné par eux, trouve pourtant des acquéreurs qui portent ensuite le trouble et la gêne dans l'empire même de l'imagination. L'esprit des Allemands et leur caractère paraissent n'avoir aucune communication ensemble. L'un ne peut souffrir de bornes, l'autre se soumet à tous les jougs. L'un est très entreprenant, l'autre très timide. Enfin, les lumières de l'un donnent rarement de la force à l'autre, et cela s'explique facilement. L'étendue des connaissances dans les temps modernes ne fait qu'affaiblir le caractère quand il n'est pas fortifié par l'habitude des affaires et l'exercice de la volonté. Tout voir et tout comprendre est une grande raison d'incertitude. Et l'énergie de l'action ne se développe que dans ces contrées libres et puissantes où les sentiments patriotiques sont dans l'âme comme le sang dans les veines et ne se glacent qu'avec la vie.
Fin de la section 3. Section 4 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 3. Les femmes. La nature et la société donnent aux femmes une grande habitude de souffrir. Et l'on ne saurait nier, ce me semble, que de nos jours, elles valent, en général, mieux que les hommes. Dans une époque où le mal universel est l'égoïsme, les hommes, auxquels tous les intérêts positifs se rapportent, doivent avoir moins de générosité, moins de sensibilité que les femmes. Elles ne tiennent à la vie que par les liens du cœur, et lorsqu'elles s'égarent, c'est encore par un sentiment qu'elles sont entraînées. Leur personnalité est toujours à deux, tandis que celle de l'homme n'a que lui-même pour but. On leur rend hommage par les affections qu'elles inspirent, mais celles qu'elles accordent sont presque toujours des sacrifices. La plus belle des vertus, le dévouement, est leur jouissance et leur destinée. Nul bonheur ne peut exister pour elles que par le reflet de la gloire et des prospérités d'un autre. Enfin, vivre hors de soi-même, soit par les idées, soit par les sentiments, soit surtout par les vertus, donne à l'âme un sentiment habituel d'élévation. Dans les pays où les hommes sont appelés par les institutions politiques à exercer toutes les vertus militaires et civiles qu'inspire l'amour de la patrie, ils reprennent la supériorité qui leur appartient. Ils rentrent avec éclat dans leur droit de maître du monde. Mais lorsqu'ils sont condamnés de quelque manière à l'oisiveté, à la servitude, ils tombent d'autant plus bas qu'ils devaient s'élever plus haut. La destinée des femmes reste toujours la même. C'est leur âme seule qui l'a fait. Les circonstances politiques n'y influent en rien. Lorsque les hommes ne savent pas, ou ne peuvent pas, employer dignement et noblement leur vie, la nature se venge sur eux des dons mêmes qu'ils en ont reçus. L'activité du corps ne sert plus qu'à la paresse de l'esprit. La force de l'âme devient de la rudesse. Et le jour se passe dans des exercices et des amusements vulgaires. Les chevaux, la chasse, les festins, qui conviendraient comme délassement, mais qui abrutissent comme occupation. Pendant ce temps, les femmes cultivent leur esprit. Et le sentiment et la rêverie conservent dans leur âme l'image de tout ce qui est noble et beau. Les femmes allemandes ont un charme qui leur est tout à fait particulier, un son de voix touchant, des cheveux blonds, un teint éblouissant. Elles sont modestes, mais moins timides que les Anglaises. On voit qu'elles ont rencontré moins souvent des hommes qui leur fussent supérieurs, et qu'elles ont d'ailleurs moins à craindre des jugements sévères du public. Elles cherchent à plaire par la sensibilité, à intéresser par l'imagination. La langue de la poésie et des beaux-arts leur est connue. Elles font de la coquetterie avec de l'enthousiasme, comme on en fait en France avec de l'esprit et de la plaisanterie. La loyauté parfaite, qui distingue le caractère des Allemands, rend l'amour moins dangereux pour le bonheur des femmes, et peut-être s'approche-t-elle de ce sentiment avec plus de confiance, parce qu'il est revêtu de couleurs romanesques. Et que le dédain et l'infidélité y sont moins à redouter qu'ailleurs. L'amour est une religion en Allemagne, mais une religion poétique qui tolère trop volontiers tout ce que la sensibilité peut excuser. On ne saurait le nier, la facilité du divorce dans les provinces protestantes porte atteinte à la sainteté du mariage. On y change aussi paisiblement d'époux que s'il s'agissait d'arranger les incidents d'un drame. Le bon naturel des hommes et des femmes fait qu'on ne mêle point d'amertume à ces faciles ruptures. Et comme il y a chez les Allemands plus d'imagination que de vraie passion, les événements les plus bizarres s'y passent avec une tranquillité singulière. Cependant, c'est ainsi que les mœurs et le caractère perdent toute consistance. L'esprit paradoxal ébranle les institutions les plus sacrées, et l'on n'y a sur aucun sujet des règles assez fixes. On peut se moquer avec raison des ridicules de quelques femmes allemandes qui s'exaltent sans cesse jusqu'à l'affectation et dont les doucereuses expressions effacent tout ce que l'esprit et le caractère peuvent avoir de piquant et de prononcé. Elles ne sont pas franches, sans pourtant être fausses. Seulement, elles ne voient ni ne jugent rien avec vérité, et les événements réels passent devant leurs yeux comme de la fantasmagorie. Quand il leur arrive d'être légères, elles conservent encore la teinte de sentimentalité qui est en honneur dans leur pays. Une femme allemande disait, avec une expression mélancolique, « Je ne sais à quoi cela tient. Les absents me passent de l'âme. » Une Française aurait exprimé cette idée plus gaiement, mais le fond eût été le même. Ces ridicules qui font exception n'empêchent pas que parmi les femmes allemandes, il y en ait beaucoup dont les sentiments soient vrais et les manières simples. Leur éducation soignée et la pureté d'âme qui leur est naturelle rendent l'empire qu'elles exercent doux et soutenu. Elles vous inspirent chaque jour plus d'intérêt pour tout ce qui est grand et généreux, plus de confiance dans tous les genres d'espoir, et savent repousser l'aride ironie qui souffle un vent de mort sur les jouissances du cœur. Néanmoins, on trouve très rarement chez les Allemandes la rapidité d'esprit qui anime l'entretien et met en mouvement les idées. Ce genre de plaisir ne se rencontre guère que dans les sociétés de Paris, les plus piquantes et les plus spirituelles. Il faut l'élite d'une capitale française pour donner ce rare amusement. Partout ailleurs, on ne trouve d'ordinaire que de l'éloquence en public ou du charme dans l'intimité. La conversation, comme talent, n'existe qu'en France. Dans les autres pays, elle ne sert qu'à la politesse, à la discussion ou à l'amitié. En France, c'est un art auquel l'imagination et l'âme sont sans doute fort nécessaires, mais qui a pourtant aussi, quand on le veut, des secrets pour suppléer à l'absence de l'une et de l'autre.
Fin de la section 4. Section 5 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 4 de l'influence de l'esprit de chevalerie sur l'amour et l'honneur. La chevalerie est pour les modernes ce que les temps héroïques étaient pour les anciens. Tous les nobles souvenirs des nations européennes s'y rattachent. À toutes les grandes époques de l'histoire, les hommes ont eu pour principe universel d'action un enthousiasme quelconque. Ceux qu'on appelait des héros dans les siècles les plus reculés avaient pour but de civiliser la terre. Les traditions confuses qui nous les représentent comme domptant les monstres des forêts font sans doute allusion au premier péril dont la société naissante était menacée et dont les soutiens de son organisation encore nouvelle la préservaient. Vint ensuite l'enthousiasme de la patrie. Il inspira tout ce qui s'est fait de grand et de beau chez les Grecs et chez les Romains. Cet enthousiasme s'affaiblit quand il n'y eut plus de patrie, et peu de siècles après, la chevalerie lui succéda. La chevalerie consistait dans la défense du faible, dans la loyauté des combats, dans le mépris de la ruse, dans cette charité chrétienne qui cherchait à mêler l'humanité même à la guerre, dans tous les sentiments, enfin, qui substituèrent le culte de l'honneur à l'esprit féroce des armes. C'est dans le Nord que la chevalerie a pris naissance, mais c'est dans le Midi de la France qu'elle s'est embellie par le charme de la poésie et de l'amour. Les Germains avaient de tout temps respecté les femmes, mais ce furent les Français qui cherchèrent à leur plaire. Les Allemands avaient aussi leur chanteur d'amour, Minnesinger. Mais rien ne peut être comparé à nos trouvères et à nos troubadours, et c'était peut-être à cette source que nous devions puiser une littérature vraiment nationale. l'esprit de la mythologie du Nord avait beaucoup plus de rapport que le paganisme des anciens Gaulois avec le christianisme. Et néanmoins, il n'est point de pays où les chrétiens aient été de plus nobles chevaliers, et les chevaliers de meilleurs chrétiens qu'en France. Les croisades réunirent les gentilshommes de tous les pays, et firent de l'esprit de chevalerie comme une sorte de patriotisme européen, qui remplissait du même sentiment toutes les âmes. Le régime féodal, cette institution politique, triste et sévère, mais qui consolidait, à quelques égards, l'esprit de la chevalerie en le transformant en loi. Le régime féodal, dis-je, s'est maintenu dans l'Allemagne jusqu'à nos jours. Il a été détruit en France par le cardinal de Richelieu. Et, depuis cette époque, jusqu'à la Révolution, les Français ont tout à fait manqué d'une source d'enthousiasme. Je sais qu'on dira que l'amour de leur roi en était une, mais en supposant qu'un tel sentiment pût suffire à une nation, il tient tellement à la personne même du souverain que, pendant le règne du régent et de Louis XV, il eût été difficile, je pense, qu'il fît faire rien de grand aux Français. L'esprit de chevalerie, qui brillait encore par étincelles sous Louis XIV, s'éteignit après lui et fut remplacé, comme le dit un historien piquant et spirituel, M. de la Crételle, par l'esprit de fatuité qui lui est entièrement opposé. Loin de protéger les femmes, la fatuité cherche à les perdre. Loin de dédaigner la ruse, elle s'en sert contre ces êtres faibles qu'elle s'enorgueillit de tromper, et met la profanation dans l'amour à la place du culte. Le courage même, qui servait jadis de garant à la loyauté, ne fut plus qu'un moyen brillant de s'en affranchir. Car il n'importait pas d'être vrai, mais il fallait seulement tuer en duel celui qui aurait prétendu qu'on ne l'était pas. Et l'empire de la société, dans le grand monde, fit disparaître la plupart des vertus de la chevalerie. La France se trouvait alors sans aucun genre d'enthousiasme. Et, comme il en faut un aux nations, pour ne pas se corrompre et se dissoudre, c'est sans doute ce besoin naturel qui tourna, dès le milieu du dernier siècle, tous les esprits vers l'amour de la liberté. La marche philosophique du genre humain paraît donc devoir se diviser en quatre ères différentes. Les temps héroïques, qui fondèrent la civilisation, le patriotisme, qui fit la gloire de l'Antiquité, la chevalerie, qui fut la religion guerrière de l'Europe, et l'amour de la liberté, dont l'histoire a commencé vers l'époque de la Réformation. L'Allemagne, si l'on en accepte quelques courts avides d'imiter la France, ne fut point atteinte par la fatuité, l'immoralité et l'incrédulité, qui, depuis la Régence, avaient altéré le caractère naturel des Français. La féodalité conservait encore chez les Allemands des maximes de chevalerie. On s'y battait en duel, il est vrai, moins souvent qu'en France, parce que la nation germanique n'est pas aussi vive que la nation française, et que toutes les classes du peuple ne participent pas, comme en France, au sentiment de la bravoure. Mais l'opinion publique était plus sévère en général sur tout ce qui tenait à la probité. Si un homme avait manqué, de quelque manière, aux lois de la morale, 10 duels par jour ne l'auraient relevé dans l'estime de personne. On a vu beaucoup d'hommes de bonne compagnie en France qui, accusé d'une action condamnable, répondait « Il se peut que cela soit mal, mais personne du moins n'osera me le dire en face. » Il n'y a point de propos qui suppose une plus grande dépravation, car où en serait la société humaine s'il suffisait de se tuer les uns les autres pour avoir le droit de se faire d'ailleurs tout le mal possible? De manquer à sa parole? De mentir? Pourvu qu'on n'osa pas vous dire « Vous en avez menti ?» Enfin, de séparer la loyauté de la bravoure et de transformer le courage en un moyen d'impunité sociale. Depuis que l'esprit chevaleresque s'était éteint en France, depuis qu'il n'y avait plus de Godefroy, de Saint-Louis, de Bayard qui protégeassent la faiblesse et se crussent liés par une parole comme par des chaînes indissolubles, j'oserais dire, contre l'opinion reçue, que la France a peut-être été, de tous les pays du monde, celui où les femmes étaient le moins heureuses par le cœur. On appelait la France le paradis des femmes, parce qu'elles y jouissaient d'une grande liberté. Mais cette liberté même venait de la facilité avec laquelle on se détachait d'elle. Le Turc, qui renferme sa femme, lui prouve au moins par là qu'elle est nécessaire à son bonheur. L'homme a bonne fortune, tel que le dernier siècle nous en a fourni tant d'exemples, choisit les femmes pour victimes de sa vanité. Et cette vanité ne consiste pas seulement à les séduire, mais à les abandonner. Il faut qu'il puisse indiquer avec des paroles légères et inattaquables en elles-mêmes que telle femme l'a aimé et qu'il n'en soucie plus. Mon amour-propre me crie, fais-la mourir de chagrin, disait un ami du baron de Bézenval, et cet ami lui parut très regrettable quand une mort prématurée l'empêcha de suivre ce beau dessein. On se lasse de tout, mon ange, écrit M. de Laclos, dans un roman qui fait frémir par les raffinements d'immoralité qu'il décèle. Enfin, dans ces temps où l'on prétendait que l'amour régnait en France, il me semble que la galanterie mettait les femmes, pour ainsi dire, hors la loi. Quand leur règne d'un moment était passé, il n'y avait pour elles ni générosité, ni reconnaissance, ni même pitié. L'on contrefaisait les accents de l'amour pour les faire tomber dans le piège, comme le crocodile qui imite la voix des enfants pour attirer leur mère. Louis XIV, si vanté par sa galanterie chevaleresque, ne se montra-t-il pas le plus dur des hommes dans sa conduite envers la femme dont il avait été le plus aimé, Madame de la Vallière? Les détails qu'on en lit dans les mémoires de Madame sont affreux. Il navra de douleur l'âme infortunée qui n'avait respiré que pour lui, et 20 années de larmes au pied de la croix purent à peine cicatriser les blessures que le cruel dédain du monarque avait faites. Rien n'est si barbare que la vanité. Et comme la société, le bon ton, la mode, le succès mettent singulièrement en jeu cette vanité, il n'est aucun pays où le bonheur des femmes soit plus en danger que celui où tout dépend de ce qu'on appelle l'opinion et où chacun apprend des autres ce qu'il est de bon goût de sentir. Il faut l'avouer, les femmes ont fini par prendre part à l'immoralité qui détruisait leur véritable empire. En valant moins, elles ont moins souffert. Cependant, à quelques exceptions près, la vertu des femmes dépend toujours de la conduite des hommes. La prétendue légèreté des femmes vient de ce qu'elles ont peur d'être abandonnées. Elles se précipitent dans la honte par crainte de l'outrage. L'amour est une passion beaucoup plus sérieuse en Allemagne qu'en France. La poésie, les beaux-arts, la philosophie même et la religion ont fait de ce sentiment un culte terrestre qui répand un noble charme sur la vie. Il n'y a point eu dans ce pays comme en France des écrits licencieux qui circulaient dans toutes les classes et détruisaient le sentiment chez les gens du monde et la moralité chez les gens du peuple. Les Allemands ont cependant, il faut en convenir, plus d'imagination que de sensibilité. Et leur loyauté seule répond de leur constance. Les Français, en général, respectent les devoirs positifs. Les Allemands se croient plus engagés par les affections que par les devoirs. Ce que nous avons dit sur la facilité du divorce en est la preuve. Chez eux, l'amour est plus sacré que le mariage. C'est par une honorable délicatesse, sans doute, qu'ils sont surtout fidèles aux promesses que les lois ne garantissent pas. Mais celles que les lois garantissent sont plus importantes pour l'ordre social. L'esprit de chevalerie règne encore chez les Allemands, pour ainsi dire, passivement. Ils sont incapables de tromper, et leur loyauté se retrouve dans tous les rapports intimes. Mais cette énergie sévère qui commandait aux hommes tant de sacrifices, aux femmes tant de vertus, et faisait de la vie entière une œuvre sainte où dominait toujours la même pensée. Cette énergie chevaleresque des temps jadis n'a laissé dans l'Allemagne qu'une empreinte effacée. Rien de grand ne s'y fera désormais que par l'impulsion libérale qui a succédé dans l'Europe à la chevalerie.
Fin de la section 5. Section 6 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 5 de l'Allemagne méridionale. Il était assez généralement reconnu qu'il n'y avait de littérature que dans le nord de l'Allemagne, et que les habitants du Midi, se livrant aux jouissances de la vie, représentaient comme le corps de l'Empire, dont les contrées septentrionales étaient l'âme. Beaucoup d'hommes de génie sont nés dans le Midi, mais ils se sont formés dans le Nord. On trouve non loin de la Baltique les plus beaux établissements, les savants et les hommes de lettres les plus distingués. Et depuis Weimar jusqu'à Königsberg, depuis Königsberg jusqu'à Copenhague, les brouillards et les frimas semblent l'élément naturel des hommes d'une imagination forte et profonde. Il n'est point de pays qui ait plus besoin que l'Allemagne de s'occuper de littérature. Car la société y offrant peu de charme, et les individus n'ayant pas pour la plupart cette grâce et cette vivacité que donne la nature dans les pays chauds, il en résulte que les Allemands ne sont aimables que quand ils sont supérieurs, et qu'il leur faut du génie pour avoir beaucoup d'esprit. La Franconie, la Souabe et la Bavière, avant la réunion illustre de l'Académie actuelle à Munich, étaient des pays singulièrement lourds et monotones. Point d'art, la musique exceptée, peu de littérature, un accent rude qui se prêtait difficilement à la prononciation de la langue latine, point de société, de grandes réunions qui ressemblaient à des cérémonies plutôt qu'à des plaisirs, une politesse obséquieuse envers une aristocratie sans élégance, de la bonté, de la loyauté dans toutes les classes, mais une certaine roideur souriante qui ôte tout à la fois l'aisance et la dignité. On ne doit donc pas s'étonner des jugements qu'on a portés, des plaisanteries qu'on a faites sur l'ennui de l'Allemagne. Il n'y a que les villes littéraires qui puissent vraiment intéresser dans un pays où la société n'est rien et la nature peu de choses. On aurait peut-être cultivé les lettres dans le Midi de l'Allemagne avec autant de succès que dans le Nord si les souverains avaient mis à ce genre d'études un véritable intérêt. Cependant, il faut en convenir, les climats tempérés sont plus propres à la société qu'à la poésie. Lorsque le climat n'est ni sévère ni beau, quand on vit sans avoir rien à craindre ni à espérer du ciel, ce sont les délices du Midi ou les rigueurs du Nord qui ébranlent fortement l'imagination. Soit qu'on lutte contre la nature, ou qu'on s'enivre de ses dons, la puissance de la création n'en est pas moins forte et réveille en nous le sentiment des beaux-arts ou l'instinct des mystères de l'âme. L'Allemagne méridionale, tempérée sous tous les rapports, se maintient dans un état de bien-être monotone, singulièrement nuisible à l'activité des affaires comme à celle de la pensée. Le plus vif désir des habitants de cette contrée paisible et féconde, c'est de continuer à exister comme ils existent. Que fait-on avec ce seul désir ? Il ne suffit pas même pour conserver ce dont on se contente.
Fin de la section 6. Section 7 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 6 de l'Autriche. Les littérateurs du nord de l'Allemagne ont accusé l'Autriche de négliger les sciences et les lettres. On a même fort exagéré l'espèce de gêne que la censure y établissait. Il n'y a pas eu de grands hommes dans la carrière littéraire en Autriche. Ce n'est pas autant à la contrainte qu'au manque d'émulation qu'il faut l'attribuer. C'est un pays si calme, un pays où l'aisance est si tranquillement assurée à toutes les classes de citoyens, qu'on n'y pense pas beaucoup aux jouissances intellectuelles. On y fait plus pour le devoir que pour la gloire. Les récompenses de l'opinion y sont si ternes et ses punitions si douces que, sans le mobile de la conscience, il n'y aurait pas de raison pour agir vivement dans aucun sens. La carrière militaire devait être l'intérêt principal des habitants d'une monarchie qui s'est illustrée par des guerres continuelles. Et cependant, la nation autrichienne s'était tellement livrée au repos et aux douceurs de la vie que les événements publics eux-mêmes n'y faisaient pas grand bruit, jusqu'au moment où ils pouvaient réveiller le patriotisme. Et ce sentiment est calme dans un pays où il n'y a que du bonheur. L'on trouve en Autriche beaucoup de choses excellentes, mais peu d'hommes vraiment supérieurs, car il n'y est pas fort utile de valoir mieux qu'un autre. On n'est pas envié pour cela, mais oublié, ce qui décourage encore plus. L'ambition persiste dans le désir d'obtenir des places. Le génie se lasse de lui-même. Le génie, au milieu de la société, est une douleur, une fièvre intérieure. Il faudrait s'en faire traiter comme d'un mal si les hommes ne l'admiraient pas, et que la nature seule s'en servît pour agiter les âmes. En Autriche et dans le reste de l'Allemagne, on plaide toujours par écrit et jamais à haute voix. Les prédicateurs sont suivis parce qu'on observe les pratiques de religion, mais ils n'attirent point par leur éloquence. Les spectacles sont extrêmement négligés, surtout la tragédie. L'administration est conduite avec beaucoup de sagesse et de justice. Mais il y a tant de méthodes en tout qu'à peine si l'on peut s'apercevoir de l'influence des hommes. Les affaires se traitent d'après un certain ordre de numéros que rien au monde ne dérange. Des règles invariables en décident et tout se passe dans un silence profond. Ce silence n'est pas l'effet de la terreur, car que peut-on craindre dans un pays où les vertus du monarque et les principes de l'équité dirigent tout. Mais le profond repos des esprits comme des âmes ôte tout intérêt à la parole. Le crime ou le génie, l'intolérance ou l'enthousiasme, les passions ou l'héroïsme ne troublent ni n'exaltent l'existence. Le cabinet autrichien a passé dans le dernier siècle pour très astucieux, ce qui ne s'accorde guère avec le caractère allemand en général. Mais souvent, on prend pour une politique profonde ce qui n'est que l'alternative de l'ambition et de la faiblesse. L'histoire attribue presque toujours aux individus, comme aux gouvernements, plus de combinaisons qu'ils n'en ont eu. L'Autriche réunissant dans son sein des peuples très divers, tels que les Bohèmes, les Hongrois, etc., n'a point cette unité si nécessaire à une monarchie. Néanmoins, la grande modération des maîtres de l'État a fait depuis longtemps un lien pour tous de l'attachement à un seul. L'empereur d'Allemagne était tout à la fois souverain de son propre pays et chef constitutionnel de l'Empire. Sous ce dernier rapport, il avait aménagé des intérêts divers et des lois établies et prenait comme magistrat impérial une habitude de justice et de prudence qu'il reportait ensuite dans le gouvernement de ses états héréditaires. La nation bohème et hongroise, les tyroliens et les flamands, qui composaient autrefois la monarchie, ont tous plus de vivacité naturelle que les véritables autrichiens. Ceux-ci s'occupent sans cesse de l'art de modérer au lieu de celui d'encourager. Un gouvernement équitable, une terre fertile, une nation riche et sage. Tout devait leur faire croire qu'il ne fallait que se maintenir pour être bien, et qu'on n'avait besoin en aucun genre du secours extraordinaire des talents supérieurs. On peut s'en passer, en effet, dans les temps paisibles de l'histoire, mais que faire sans eux dans les grandes luttes? L'esprit du catholicisme qui dominait à Vienne, quoique toujours avec sagesse, avait pourtant écarté sous le règne de Marie-Thérèse ce qu'on appelait les Lumières du XVIIIe siècle. Joseph II vint ensuite et prodigua toutes ces Lumières à un État qui n'était préparé ni au bien ni au mal qu'elles peuvent faire. Il réussit momentanément dans ce qu'il voulait, parce qu'il ne rencontrait point en Autriche de passion vive, ni pour ni contre ses désirs. Mais après sa mort, il ne resta rien de ce qu'il avait établi, parce que rien ne dure que ce qui vient progressivement. L'industrie, le bien-vivre et les jouissances domestiques sont les intérêts principaux de l'Autriche. Malgré la gloire qu'elle s'est acquise par la persévérance et la valeur de ses troupes, l'esprit militaire n'a pas vraiment pénétré dans toutes les classes de la nation. Ses armées sont pour elle comme des forteresses ambulantes, mais il n'y a guère plus d'émulation dans cette carrière que dans toutes les autres. Les officiers les plus probes sont en même temps les plus braves. Ils y ont d'autant plus de mérite qu'il en résulte rarement pour eux un avancement brillant et rapide. On se fait presque un scrupule en Autriche de favoriser les hommes supérieurs, et l'on aurait pu croire quelquefois que le gouvernement voulait pousser l'équité plus loin que la nature, et traiter d'une égale manière le talent et la médiocrité. L'absence d'émulation a sans doute un avantage, c'est qu'elle apaise la vanité. Mais souvent aussi la fierté même s'en ressent, et l'on finit par n'avoir plus qu'un orgueil commode, auquel l'extérieur seul suffit en tout. C'était aussi, ce me semble, un mauvais système que d'interdire l'entrée des livres étrangers. Si l'on pouvait conserver dans un pays l'énergie du XIIIe et du XIVe siècle, en le garantissant des écrits du XVIIIe, ce serait peut-être un grand bien. Mais comme il faut nécessairement que les opinions et les lumières de l'Europe pénètrent au milieu d'une monarchie qui est au centre même de cette Europe, c'est un inconvénient de ne les y laisser arriver qu'à demi, car ce sont les plus mauvais écrits qui se font jour. Les livres remplis de plaisanteries immorales et de principes égoïstes amusent le vulgaire et sont toujours connus de lui. Et les lois prohibitives n'ont tout leur effet que contre les ouvrages philosophiques qui élèvent l'âme et étendent les idées. La contrainte que ces lois imposent est précisément ce qu'il faut pour favoriser la paresse de l'esprit, mais non pour conserver l'innocence du cœur. Dans un pays où tout mouvement est difficile, dans un pays où tout inspire tranquillité et repos, le plus léger obstacle suffit pour ne rien faire, pour ne rien écrire, et si on le veut même, pour ne rien penser. Qu'y a-t-il de mieux que le bonheur, dira-t-on ? Il faut savoir néanmoins ce qu'on entend par ce mot. Le bonheur consiste-t-il dans les facultés qu'on développe ou dans celles qu'on étouffe ? Sans doute, un gouvernement est toujours digne d'estime quand il n'abuse point de son pouvoir et ne sacrifie jamais la justice à son intérêt. Mais la félicité du sommeil est trompeuse. De grands revers peuvent la troubler. Et pour tenir plus aisément et plus doucement les rênes, il ne faut pas engourdir les coursiers. Une nation peut très facilement se contenter des biens communs de la vie, le repos et l'aisance, et des penseurs superficiels prétendront que tout l'art des gouvernements se borne à donner au peuple ses biens. Il en faut pourtant de plus nobles pour se croire une patrie. Le sentiment patriotique se compose des souvenirs que les grands hommes ont laissés, de l'admiration qu'inspirent les chefs-d'œuvre du génie national, enfin de l'amour que l'on ressent pour les institutions, la religion et la gloire de son pays. Toutes ces richesses de l'âme sont les seules que ravirait un joug étranger. Mais si l'on s'en tenait uniquement aux jouissances matérielles, le même sol, quel que fût son maître, ne pourrait-il pas toujours les procurer ? L'on craignait à tort, dans le dernier siècle, en Autriche, que la culture des lettres n'affaiblît l'esprit militaire. Rodolphe de Habsbourg détacha de son cou la chaîne d'or qu'il portait, pour en décorer un poète alors célèbre. Maximilien fit écrire un poème sous sa dictée. Charles Quint savait et cultivait presque toutes les langues. Il y avait jadis sur la plupart des trônes de l'Europe des souverains instruits dans tous les genres et qui trouvaient dans les connaissances littéraires une nouvelle source de grandeur d'âme. Ce ne sont ni les lettres ni les sciences qui nuiront jamais à l'énergie du caractère. L'éloquence rend plus brave, la bravoure rend plus éloquent. Tout ce qui fait battre le cœur pour une idée généreuse double la véritable force de l'homme, sa volonté. Mais l'égoïsme systématique, dans lequel on comprend quelquefois sa famille comme un appendice de soi-même, mais la philosophie, vulgaire au fond, quelque élégante qu'elle soit dans les formes, qui porte à dédaigner tout ce qu'on appelle des illusions, c'est-à-dire le dévouement et l'enthousiasme. Voilà le genre de lumière redoutable pour les vertus nationales. Voilà celle cependant que la censure ne saurait écarter d'un pays entouré par l'atmosphère du XVIIIe siècle. L'on ne peut échapper à ce qu'il y a de pervers dans les écrits qu'en laissant arriver de toutes parts ce qu'ils contiennent de grand et de libre. On défendait à Vienne de représenter Don Carlos, parce qu'on ne voulait pas y tolérer son amour pour Élisabeth. Dans Jeanne d'Arc de Schiller, on faisait d'Agnès Sorel la femme légitime de Charles VII. Il n'était pas permis à la bibliothèque publique de donner à lire l'esprit des lois. Mais, au milieu de cette gêne, les romans de Crébillon circulaient dans les mains de tout le monde. Les ouvrages licencieux entraient, les ouvrages sérieux étaient seuls arrêtés. Le mal que peuvent faire les mauvais livres n'est corrigé que par les bons. Les inconvénients des lumières ne sont évités que par un plus haut degré de lumière. Il y a deux routes à prendre en toutes choses. Retrancher ce qui est dangereux ou donner des forces nouvelles pour y résister. Le second moyen est le seul qui convienne à l'époque où nous vivons, car l'innocence ne pouvant être, de nos jours, la compagne de l'ignorance, celle-ci ne fait que du mal. Tant de paroles ont été dites, tant de sophismes répétés, qu'il faut beaucoup savoir pour bien juger. Et les temps sont passés où l'on s'en tenait en fait d'idées au patrimoine de ses pères. On doit donc songer non à repousser les lumières, mais à les rendre complètes, pour que leurs rayons brisés ne présentent point de fausses lueurs. Un gouvernement ne saurait prétendre à dérober à une grande nation la connaissance de l'esprit qui règne dans son siècle. Cet esprit renferme des éléments de force et de grandeur, dont on peut user avec succès quand on ne craint pas d'aborder hardiment toutes les questions. On trouve alors dans les vérités éternelles des ressources contre les erreurs passagères, et dans la liberté même le maintien de l'ordre et l'accroissement de la puissance.
Fin de la section 7.